Il y a quelques questions auxquelles, Inch'Allah Azzawajal, je vais répondre. Quelle personne la femme doit aimer avant les parents ou le mari? Tout d'abord, je dis à la femme musulmane de ne pas penser de cette manière. Qui je dois aimer le plus, le mari ou les parents? Aimer le plus les parents ou le mari, c'est pas moi qui le détiens, c'est Allah Azzawajal. Mon cœur, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je parle des droits et devoirs. Une fois marié, le mari a plus de devoirs sur la femme que les parents. Le mahabba, aimer les parents plus que le mari, c'est possible qu'une femme qui donne tous les droits à son mari et qu'elle aime plus les parents que le mari, c'est une chose qui est tout à fait normale, qui peut être tout à fait normale, comme le contraire, ça peut être aussi normal. Donc, au niveau de mahabba, aimer les parents ou le mari, c'est une chose qui est entre les mains de Allah Azza wa Jal, mais je parle des droits qui sont 1, 2, 3, 4, 5, des droits cités dans les textes du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je parle des droits. Les droits, eh bien, le mari a plus de droits que les parents, si jamais les parents et le mari, leurs droits se posent. Eh bien, ce sont les droits du mari qui passent avant. Tout en rappelant qu'il ne doit pas y avoir ce genre de problème dans les familles. On doit vivre tous ensemble comme une même famille, les beaux-parents, les enfants, le mari, la femme. On doit se respecter, s'entraider, s'aimer et non pas travailler dans ce sens qui est le fait de dire que vous avez des droits, nous avons des droits, mes droits passent avant les vôtres et essayer de créer des problèmes et des disputes dans la famille. Que dire aux sœurs? J'en connais plusieurs, dit celui qui a posé la question. La sœur qui a, c'est une sœur qui a posé la question. Que dire aux sœurs? J'en connais plusieurs dont les maris sont tout le temps devant la télé, ne dialoguent pas, elles se sentent seules. Tout d'abord, je dis au mari, avant les sœurs, au mari, attaquullah azza wa jal. La télé, vous savez qu'est-ce qu'elle rapporte. Dans la plupart de ces programmes, vous savez très très bien qu'est-ce qu'elle rapporte. La première chose qu'elle rapporte, c'est de détruire l'iman, la foi. Deux, c'est de faire disparaître le ghayra, la jalousie. Trois, c'est de faire disparaître le haya, la pudeur, de tuer le haya. Au point où on n'a aucune réaction vis-à-vis de le munkar. On voit le munkar à l'intérieur de la maison et de la famille et on ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de regarder le munkar. Et l'effet qu'elle a sur les enfants, sur l'éducation des enfants, c'est un effet qui est très très dangereux. Donc on doit faire attention, très attention à ce qu'on regarde à la télé. On doit faire très attention. Des choses sérieuses, des choses qui sont des bonnes choses, on regarde. Alhamdulillah, il y a beaucoup de programmes, des cassettes vidéo, alhamdulillah, pour les grands, pour les enfants, etc. On les regarde. Mais regarder n'importe quoi, eh bien ça détruit la famille. Et beaucoup de gens ont eu beaucoup de problèmes à cause de la télé. À cause de la télé. Des sœurs qui se plaignent de leur mari qui regarde les films ou l'iyadu billah de munkar à la maison. Le frère, il prie, c'est des frères qui prient, il regarde le munkar à la maison, à la télé. Et c'est son épouse qui découvre un jour que son mari est en train de regarder les films ou l'iyadu billah de munkar. Alors que le frère prie, il fréquente les mosquées, etc. Donc, je ne sais pas de quelle pratique on parle. Les sœurs qui ont ce genre de mari, je leur conseille, tout d'abord, de prier Allah Azza wa Jal de les guider, de guider leur mari vers le khayr, pour qu'ils arrêtent de faire ce genre de choses, le haram. De deux, de conseiller leur mari, et c'est à chacune de le faire de la manière qu'elle estime qui passe le mieux et le plus facilement possible. Parce que certains maris qui font des choses, qui regardent la télé, peut-être en cachette à 2h du matin, quand la femme dort, si sa femme le découvre un jour, eh bien, il est surpris par son épouse, ça se transforme en divorce directement. Il n'accepte pas qu'on le découvre en train de regarder le haram. Eh bien, si c'est le cas, je conseille à la sœur de passer le conseil, de faire passer le message, de faire passer le conseil d'une manière discrète. Soit par l'intermédiaire de quelqu'un, de sage. Un qui envoie quelqu'un qui va lui dire « Ah, alors il y a le musulman, le musulman, qu'est-ce qu'il a ?» De faire passer le message d'une manière discrète et avec sagesse. Par l'intermédiaire d'un ami ou d'un frère ou de la famille, etc. Quelqu'un qui sait faire passer le message. Ad-du'a plus le conseil. On choisit le moyen comment faire passer le message et le conseil. Et aussi, à la maison, qu'il y ait des livres et des cassettes qui parlent de l'islam. Quand le mari rentre, il entend la cassette, il écoute une cassette à la maison, la femme en train d'écouter, tu fais même exprès, dès que tu entends les pas de ton mari dans l'escalier, tu mets une cassette. Une cassette qui parle de din, qui parle par exemple même du regard, le fait de ne pas regarder le haram, tu fais semblant d'écouter la cassette. et tu le laisses écouter avec toi, et très directement il va comprendre qu'il est concerné. Et peut-être un jour Allah Azza wa Jalla le guidera. Mais c'est une très mauvaise chose que font certains frères malheureusement. Est-ce que le mari a le droit d'interdire à sa femme d'aller voir souvent ses parents? Le mari a le droit que son épouse ne quitte la maison pour aller visiter quelqu'un ou pour sortir qu'après demander sa permission. Mais là, combien de fois elle peut aller voir ses parents? Il n'y a pas un certain nombre de fois que l'islam demande. C'est un arrangement, entre le mari et sa femme, c'est à vous de voir. Le mari, s'il veut laisser son épouse aller voir ses parents une fois par semaine, ou une fois sur deux semaines, ou une fois par mois, une fois par an, ou bien trois fois par semaine, ou cinq fois par semaine, c'est à vous de voir comment vous arrangez entre vous. Donc on ne peut pas dire au mari que tu peux donner autant de fois à ton épouse le droit d'aller visiter les parents, ou bien dire à la femme, tu as le droit de demander autant de fois. C'est à vous de voir comment vous arrangez du moment que ce n'est pas une négligence de la part de la femme vis-à-vis des responsabilités qu'elle a à la maison avec, envers son mari ou envers ses enfants. Donc, elle peut aller souvent, ça dépend de comment elle vit avec son mari, comment il s'arrange, elle et son mari. Mais dans le cas où le mari voit que sa femme exagère, il a le droit de lui interdire. S'il voit qu'il y a de l'haram, par exemple, chez ses parents, là, il a le droit de lui interdire d'aller dans les moments où il y a le haram, mais il la laisse faire les liens de parenté, Silat al-Rahim, qu'il aille avec elle, il l'accompagne, passer au moins quelques minutes, quelques heures avec les parents, au moins peut-être ne pas aller très souvent s'il y a le haram chez les parents, mais ne pas couper les liens définitivement. Ça ne fera que du mal, pour les parents et pour le couple. Donc gardez les liens avec les parents, essayez de ne pas participer à le haram, de ne pas se trouver dans les moments où il y a le haram, tout en faisant nasiha, le conseil, le faisant du'a, mais essayez de garder aussi les liens de parenté, silat al-arham, ça représente beaucoup de choses dans l'islam. Est-ce que le mari peut interdire à la femme d'aller à la mosquée? Là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le hadith qui est clair. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit aux hommes, n'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. Ça, c'est la règle. Donc le mari n'a pas le droit d'interdire à sa femme d'aller à la mosquée si elle veut y aller. Surtout pour apprendre, pour assister à certaines prières. Donc c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama, ils ont fait exception, ils ont dit, sauf s'il y a vraiment une fitna, s'il y a risque de fitna, etc. Alors là, il peut lui interdire. Ou bien, ça s'oppose à des droits qu'elle doit à son mari et qu'elle néglige à cause du fait qu'elle va à la mosquée. Si il y a un droit du mari à ce moment-là où elle doit aller à la mosquée, eh bien le droit du mari passe avant d'aller à la mosquée. Mais si, alhamdoulilah, elle fait ses devoirs, elle a du temps libre pour aller à la mosquée, elle va apprendre à la mosquée, elle va assister à la prière à la mosquée, eh bien dans ce cas, notre ami dit au mari, n'interdis pas à ton épouse d'aller à la mosquée. Et on connaît tous le ghayr à la jalousie de Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il était très jaloux. Mais malgré cela, il n'empêchait pas son épouse d'aller à la mosquée. Et on lui disait, « Omar, comment toi qui es tellement dur, il est strict, il avait beaucoup de ghayra, tu ne peux pas interdire à ton épouse d'aller à la mosquée ?» Il lui a dit, « Depuis que j'ai entendu Rasoul me dire, n'interdisez pas à vos femmes d'aller à la mosquée, eh bien, j'ai cessé de le faire, radiyallahu anhu. » Une femme peut-elle refuser d'avoir des rapports intimes avec son mari si celui-ci n'est pas constant dans ses prières? Il joue à des jeux du hasard et divulgue des secrets au sein du couple. Malgré la situation du mari qui est décrite par la sœur, eh bien, je conseille à la sœur de ne pas corriger une erreur par une autre. Parce que ça ne fera qu'augmenter la dispute dans le couple. Et ça ne fera que casser le couple. Si lui ne fait pas ses devoirs envers Allah Azza wa Jal, et que tu as décidé de continuer à vivre avec lui, eh bien, essaye de faire ce qu'on appelle l'islah, de contribuer à corriger ses erreurs. Comment? Avec sabr et du'a, et aussi en faisant le maximum de tes efforts envers ton mari pour essayer de le gagner au lieu que c'est Shaitan qui le gagne. Parce que le cas de ce frère, c'est un cas de faiblesse de l'imam, certainement. L'imam da'if. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est entre les mains de Shaitan. Eh bien, le rôle de la femme, mu'mina, c'est de l'aider à sortir d'entre les mains de Shaitan. Comme a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, quand ils ont vu un homme sahabi qui est venu et qui buvait du vin au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bu le vin plusieurs fois. Et un jour, il est venu devant le Sahaba. Le Sahaba, ils l'ont frappé. Et un Sahabi l'a insulté, il l'a maudit. Il dit, la'anahullah. Combien de fois n'a-t-il pas bu le vin? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attention. La tu'inu shaytan ala akhikum. N'aidez pas shaytan contre votre frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le frère, il est dans un état de faiblesse de l'iman. On doit l'aider à s'en sortir. Et non pas essayer de l'enfoncer encore plus dans le problème et dans le piège de shaytan. Donc la femme, elle fait ce qu'elle peut faire comme bonnes actions envers son mari, bon comportement envers son mari, donner ses droits à son mari et faire du'a et nasiha. Peut-être Allah Azza wa Jal le ramène vers le droit chemin. Si le mari bat sa femme, que doit-elle faire? De un, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand un jour sahaba on lui a annoncé qu'il y a des gens, des hommes parmi les sahaba qui frappaient leurs épouses, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas vos meilleurs, ceux qui frappent leurs épouses. Ce ne sont pas vos meilleurs. Et on sait tous que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé ses épouses. Jamais de la vie, sallallahu alayhi wa sallam, n'a touché une de ses épouses. Même le jour où il a eu une dispute avec Aïcha radiallahu anha, et que Aïcha était en colère contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont fait appel à Abu Bakr, le père de Aïcha, pour faire arbitre entre qui? Entre Aïcha et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand Abu Bakr est rentré, il a entendu qu'il y a dispute entre Aïcha et Rasoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à frapper Aïcha, sa fille. Et Aïcha, elle s'est cachée derrière qui? Derrière Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Rasoul, pourquoi? Parce qu'elle sait comment était Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses et avec ses femmes. Alayhi sallatu wa sallam. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Donc, plus le mari a cette rahma envers son épouse, cette affection envers son épouse, plus c'est mieux pour les deux. Et il ne doit jamais, jamais encourir à ce moyen pour frapper son épouse, car ça ne fera qu'augmenter les problèmes dans le couple. Wal'iyadu billah. Laissez faire ou appeler les autorités, et si la personne pour l'aider, fais appel. Il y a, alhamdoulilah, les mosquées, le centre islamique, il y a le mashayikh, il y a, etc. Fais intervenir des gens pour contribuer à arranger et à concilier les couples. Courir directement aux tribunaux et à la police, ils en ont marre de nos problèmes. Les dossiers chez eux, il y en a des centaines, voire même des milliers. Ils en ont marre des problèmes des couples et surtout des jeunes mariés musulmans. Une mère demande à son fils de divorcer car la belle-fille fait des choses sans la permission du mari et ne respecte pas les parents du mari. Le fils l'a fait, donc il a divorcé, mais la mère regrette. Elle voudrait savoir si elle a eu tort de lui demander cela. Donc c'est une mère qui pose la question. Elle avait demandé à son fils de divorcer sa femme. Et par après, elle a regretté. La mère a regretté. Donc elle demande, elle voudrait savoir si elle a eu tort de lui demander cela. De un, la question qui vient, est-ce que le fils a le droit de divorcer son épouse quand le père ou la mère demande? C'est la question. Là, il y a une histoire qui a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Omar ibn Khattab ordonna à son fils Abdullah ibn Omar de divorcer son épouse. Omar dit à Abdullah ibn Omar, il lui dit divorce une de ses épouses. Et ibn Omar a obéi à Omar ibn Khattab. Alors, certains frères croient que parce que Rasulullah l'a dit à Abdullah ibn Omar, il dit ati' abak, obéis à ton père. Il dit à Abdullah ibn Omar, obéis à ton père, c'est-à-dire divorce cette femme. Alors, ils croient, certains frères, que c'est une règle pour tout le monde. Puisque le père ou la mère demande de divorcer, eh bien, on divorce pour obéir aux parents. C'est une grave erreur. Comme ils ont dit, al-ulama rahimahumullah ta'ala. Et même un grand savant, l'ulama des imams de l'islam, quand ils lui ont dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, mon père m'a demandé, on m'a ordonné de divorcer mon épouse. Parce que Omar ibn Khattab l'a fait. Et le grand imam, il lui dit, tu peux divorcer ton épouse, à condition si tu es comme Omar ibn Khattab. Si ton père est comme Omar ibn Khattab. Si ton père est comme Omar ibn Khattab, divorce ton épouse. S'il ne l'est pas, eh bien garde ton épouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Omar ibn Khattab, on ne peut pas le comparer à nos parents. On ne peut pas comparer nos parents à Omar ibn Khattab. Souvent, les parents demandent à leur fils de divorcer ou à leur fille de divorcer pour des biens matériels, pour des problèmes, pour des petites disputes, etc. Donc pourquoi commettre l'injustice envers son épouse sans raison islamique? S'il y avait des raisons islamiques où on a cherché tous les remèdes pour arranger, réconcilier après des mois et des années et ça n'a pas marché, eh bien le divorce c'est le dernier moyen, le dernier recours c'est le divorce. Mais divorcer parce que les parents le demandent, ce n'est pas une raison valable islamiquement. ce n'est pas valable, tu n'as pas le droit de divorcer parce que les parents le demandent. Souvent, quand il y a des frères qui viennent, ils disent, moi je veux me marier avec une telle fille, mes parents ne veulent pas. Là, je dis aux frères, écoutez vos parents, avant le mariage. Quand le frère demande, il dit, est-ce que je peux ne pas, je peux me marier avec une telle sœur alors que mes parents ne veulent pas, eh bien je leur dis, écoutez vos parents. Il n'y a rien de fait. Jusqu'alors, eh bien, écoute tes parents, c'est mieux. Pourquoi tu vas couper les liens avec tes parents, désobéir à tes parents, alors que tu n'es pas encore marié? Ce que tu peux faire, c'est d'essayer d'expliquer à tes parents, d'insister, ou même de demander à ta famille, à tes parents, de rencontrer la fille, de voir comment elle est, etc. Essayer petit à petit. Mais se marier avec une fille que tes parents ne veulent pas, de force, c'est pas bien, c'est quelque chose de très mauvais. Mais si tu es déjà marié, et que tes parents, surtout comme disaient certains frères, un frère il m'a dit que ce sont ses parents qui ont choisi la belle-fille. Et quand il s'est marié avec elle, sa mère lui dit, il faut divorcer. C'est elle qui l'a choisi et c'est elle qui dit, il faut divorcer. Subhanallah. Tu n'acceptes pas cela pour ta fille. Pourquoi tu l'acceptes pour les autres? Donc je dis à cette sœur, à cette mère, que ce qu'elle a fait, elle devait patienter avant de prendre cette décision et d'essayer de trouver la solution convenable avant de demander à son fils de divorcer, car le divorce, dans la plupart des cas, ne fait que des dégâts et ne résout pas le problème. S'il y a moyen de se rattraper, faites-le. Si vous estimez que c'est mieux pour eux de reprendre la vie ensemble, eh bien essayez de faire participer des gens de la famille ou des gens de connaissance pour qu'ils reviennent ensemble. Ce n'est pas quelque chose de bien de faire le divorce et d'ordonner à ses enfants de faire le divorce comme le cas qui est exposé devant vous ici. Wallahu a'lam. Qu'en est-il du mari qui se refuse à son épouse car il est fatigué? Adarsul Hirawa. Quels sont les droits de l'épouse par rapport aux relations intimes? C'est clair, subhanallah. Il doit apprendre les premières notions élémentaires en islam. Al-Mushkila, vous savez le problème de beaucoup de nos frères, c'est qu'il y a un manque de connaissances et un manque de sagesse. Plutôt, il y a un manque de connaissances et beaucoup de manque de sagesse. Regardez, il y a des choses halal, licites, on ne les fait pas. Par sagesse, on ne les fait pas. Elles sont halal, par sagesse, on ne les fait pas. Il y a même des choses qui sont recommandées, des fois, je dis bien, des fois, on ne les fait pas. Et même Ibn Taymiyyah a souligné cette règle. Et l'ulama donne l'exemple de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand il a refusé de reconstruire le Kaaba sur les mêmes dimensions qu'elle était au temps d'Ibrahim. Il l'a laissé comme elle était au temps de Quraysh et il ne l'a pas reconstruite selon les vraies dimensions du temps d'Ibrahim. Pourquoi? De crainte, ça allait provoquer une fitna chez les musulmans de dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam détruit le Kaaba, il n'a pas de respect pour le Kaaba, etc. Alors c'est une chose qu'il demandait. Donc, mais les choses halal, mais c'est pas, on ne fait pas tout ce qui est halal. Des fois, des choses halal, on ne les fait pas, vu les conséquences. Eh bien, le mari, par sagesse, subhanallah, sa femme, lui, il veut que toujours son épouse, quand lui, elle a besoin de son épouse, il veut qu'il la trouve prête, bien préparée pour lui. Et quand l'épouse a besoin du mari pour ses relations intimes, le mari, ça qu'arrête l'eau, elle est qu'un aïen. Voilà, on a qu'un l'eau, on a qu'un d'un. Est-ce qu'on a qu'un l'eau, on 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 a c'est son droit, elle aussi. C'est un droit du mari et de la femme. Comme a souligné beaucoup de savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres savants, disent que haqqul istimta', parce que certains savants ils ont dit, parmi les droits du mari, haqqul istimta', les droits du mari, c'est le droit à jouir de son épouse. Et des grands savants ils ont dit que c'est une erreur de dire que c'est le droit du mari. C'est le droit du mari et de la femme. Les deux ont droit à jouir l'un de l'autre. Hada haqq mutabadal. Donc le mari, tu es fatigué. Eh bien, si tu as de la sagesse, en deux minutes tu transformes en Tarzan. Tarzan, pardon. En deux minutes, ta vie. Donc Allah, Inch'Allah, Zawjel, même si tu es fatigué, tu le fais l'Illah subhanahu wa ta'ala, c'est ton épouse et achi. Zawjetek, halal. Donc, qu'est-ce que tu fais? Subhanallah, essaye. Tu lui dis, tu lui expliques, tu lui dis, Inch'Allah, d'ici, donne-moi un quart d'heure, 20 minutes, le temps de te reposer un petit peu, de voir peut-être quelque chose, de te préparer. Alhamdulillah, essaye de faire un effort pour satisfaire ton épouse. Et ça fera augmenter al-mahabba et le respect dans le couple. Comme tu veux quand ton épouse, tu en as besoin, elle est prête pour toi, il est de même pour elle. Mais il se peut que dans des cas d'extrême fatigue, tu expliques à ton épouse, tu lui dis, Allah, je sais que maintenant je suis fatigué, inshallah, azza wa jal, khalli pour après, etc. Il n'y a aucun mal. On doit parler, on doit parler. Notre problème, c'est un manque de communication dans le couple. On parle pas. On rentre à la maison. Une fois qu'on arrive devant la porte, eh bien, on retire les piles, on parle plus. Dès qu'on sort, on rencontre les amis, on discute pendant des heures. Mais quand on rentre à la maison, on parle plus avec l'épouse. C'est un problème qui se trouve dans la plupart des couples. Il n'y a pas de dialogue à la maison. On parle, on dit, subhanallah, tu crois sincèrement, ton épouse qui est mu'mina, si tu lui expliques, tu lui dis, Allah, jazik bi khair, aujourd'hui je suis très fatigué, on peut reporter. 1000% elle va pas t'en vouloir. Mais c'est des cas particuliers, des cas d'exception. Mais tout le temps tu es fatigué, subhanallah, pourquoi t'es marié? C'est un droit qui est là. Est-ce que du fait qu'inchallah je refuse de vivre la polygamie, c'est de moi une femme impie? Car c'est ce qu'on m'a dit dans la classe. Non, A'udhu billah, celui qui te l'a dit, c'est qu'un daraj, mais qu'un daraj. Ça ne peut être que ton mari qui te l'a dit. Non, le fait que tu refuses la polygamie, ça ne veut pas, ni de loin ni de près, être que dire que tu es impie. Presque, je dis presque, aucune épouse n'acceptera cela, la polygamie. Ça fait partie de la nature de la femme, subhanallah. L'islam, il a autorisé au mari musulman d'en avoir qu'un, mais ce n'est pas une obligation. Mais le fait que la femme déteste cela, ça ne veut pas dire qu'elle déteste les lois d'Allah Azza wa Jalla. Elle déteste la réalité, pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a tout à fait le droit de refuser. C'est son droit de refuser. Même dans la famille du prophète sallam, surat al-Tahrim, « Ya ayyuha al-Nabiyyu, lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardat azwajik » Il y a eu un complot préparé par deux épouses du prophète sallam, Aisha et Hafsa, contre une troisième. Pourquoi? Parce qu'il y avait le ghayra, la jalousie entre les épouses. Et même Aisha radiallahu anha, un jour quand elle a vu une nouvelle épouse arriver, avec qui le prophète sallam avait décidé de se marier, dès qu'elle l'a vue, elle était très très belle, cette nouvelle épouse, Aisha avait de la jalousie. C'est tout à fait normal que ça, la femme ait de la jalousie, elle veut que son mari reste pour elle. Et même, c'est quelque chose de positif d'un côté. Si on le voit d'un certain angle, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire qu'elle aime son mari. Si elle n'aimait pas son mari, elle aime son mari, elle veut qu'elle reste, elle, toute seule, avec son mari. Donc le fait qu'elle veut pas, elle a le droit de refuser, elle a le droit de dire non, et le mari ne peut pas lui dire que c'est pour autant que tu es impie. Que conseillez-vous, quel conseil avez-vous pour un couple nouvellement marié où la femme a décidé de ne plus prier et a enlevé le hijab? Ils sont mariés depuis environ 3 mois et elle portait le hijab et priait jusqu'il y a quelques jours. Subhanallah. Le mariage en islam fait augmenter l'iman, fait augmenter la foi, comme on a entendu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la moitié de la religion. Le mariage fait augmenter l'iman et la pudeur et la foi, et même il fait augmenter la raison chez l'un et chez l'autre du fait qu'ils deviennent de plus en plus responsables. Mais ce qui m'étonne, c'est ce changement qui vient après 3 mois, subhanallah, du jour au lendemain, il y a un problème quelque part. Et moi je crois que le problème vient avant le mariage, vient déjà de l'éducation. Une sœur qui est éduquée à porter le hijab, elle ne va pas le retirer. Et malheureusement, c'est devenu en quelque sorte la mode à partir de 2000, etc. C'est que quand il y a un problème dans le couple, la première chose que fait certaines, je dis bien certaines sœurs, la première chose à faire, c'est de retirer le hijab. Elle a un problème avec le mari, pas avec le hijab. Mais la première réaction, c'est de retirer le hijab. Il y a un problème d'éducation. Il y a un problème chez sa famille à elle, qu'elle n'a pas été éduquée islamiquement. Sinon, elle n'aurait jamais retiré le hijab. Le hijab, c'est une pratique dans le Coran Karim. Ce n'est pas une pratique qui est ordonnée par l'homme, par le mari ou par le père. Le Coran Karim ordonne à la fille musulmane de porter le hijab. Il y a la prière, il y a le siyam, il y a le zakat, il y a le hajj, il y a le hijab. Donc, cette sœur, elle a un grand problème dans ses connaissances islamiques et dans son éducation islamique. Elle doit faire « al-tawba ilallah azza wa jal ». Passer du hijab à la prière c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, arrêter de faire la prière. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar ». C'est quelque chose de très grave de laisser la prière. Donc, le mari, je lui conseille de parler avec son épouse à partir du Coran, à partir de l'islam, à partir des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui rappeler la gravité de ce qu'elle fait, de retirer le hijab et d'arrêter la prière. Donc d'insister. Est-ce que les conversations téléphoniques sont islamiquement licites avec la future épouse? sans être encore marié dans les normes du respect des akhbars. Normalement, l'islam demande au futur époux de regarder la future épouse et vice versa. Ça veut dire, avant le mariage, le jeune qui veut se marier, il lui est recommandé islamiquement de voir la fille avec qui il va se marier par après. Comme dit Rasoul sallallahu alayhi dans les textes authentiques. Bien sûr, regardez, je dis regardez. Pas sortir avec. Et aller à la tombion faire des tours. Là, le problème qui se pose, est-ce que c'est permis de lui parler au téléphone? Les savants disent, et cette question a été posée à des grands savants de notre époque, ils ont dit que parler pour des choses nécessaires, s'il le faut, on peut. Si c'est nécessaire, par exemple, que le frère prend le téléphone et téléphone à son futur épouse peut-être, il lui téléphone, salam alaykoum, wa alaykoum salam, je veux me présenter chez tes parents pour demander ta main. Allah yajzik bi khair. Moi je m'appelle tel et tel et je veux me présenter pour demander ta main. Est-ce que je peux venir ou pas? Est-ce que tu me conseilles d'attendre un petit peu ou de venir le plus vite possible ou bien le plus proche possible, etc. Il demande des renseignements qui sont vraiment nécessaires. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À ma téléphone le matin, salam alaikum, comment tu vas? Ça va? Alhamdulillah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as été à l'école? Masha'Allah. Et qu'est-ce que tu as porté comme gilbab, noir ou blanc? Zef, midi, salam alaikum, ça va la bessalik, bichel, alhamdulillah, comment tu vas? 6 heures de l'après-midi, salam alaikum. Ya akhin, salam alaikum. Pourquoi? Parce que le fait de parler de cette manière continuellement avec quelqu'un qui n'est pas un mahram, ça va mener à fitna, ça va mener à fitna. Allah Azza wa Jalla dit, taqrabu zina. Qu'est-ce qui te garantit que parole, parle une fois, deux fois, dix fois, eh bien, subhanallah, ça peut aller encore plus loin que le téléphone, se rencontrer, ensuite sortir ensemble, commettre le haram, après te dire, salam alaikum, Allah aoun, il va chercher encore une autre. Donc faire très attention. Parler une fois ou deux fois quand c'est vraiment nécessaire, demander des renseignements nécessaires, il n'y a pas de problème, du moment que ça se fait dans les règles de l'islam, l'adab, l'ihtiram, parler au minimum. Alors prendre une habitude, là, ça va mener à le haram dans la plupart des cas. Et il y a une règle dans l'islam qui s'appelle celle de zari'a. Ce qui mène à le haram devient haram. Mon mari me demande de porter le niqab, mais je ne suis pas encore prête. Cette question a été déjà posée, je crois, l'année passée, ici au même endroit, si je m'en rappelle. Si le mari demande à son épouse de porter le niqab, elle doit lui obéir. Elle doit lui obéir. Mais je recommande au frère, comme elle dit la sœur, elle dit je ne suis pas encore prête, je lui demande de bien lui donner un peu de temps pour qu'elle soit prête et qu'il lui explique et qu'elle s'habitue petit à petit, Inch'Allah Azza wa Jal, pour le porter. Parce que en vérité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les sœurs qui le portent, jazakallahu khayran, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est une demande que je fais au frère, de donner le temps à son épouse de se préparer pour cette nouvelle pratique pour elle. C'est une nouvelle pratique et ça demande beaucoup d'efforts, vu le regard dans les rues, vu la réaction des gens, vu beaucoup de facteurs. Donc ça demande un effort de l'imam. La sœur demande un peu de temps, il n'y a pas de problème pour le frère, Inch'Allah Azza wa Jal, qui lui accorde ce temps pour qu'elle puisse s'en habituer et se préparer. Quand est-ce que devient-il obligatoire à l'homme de se marier? La règle dit que le mariage est soumis aux 5 qualifications juridiques. C'est-à-dire, le mariage peut être recommandé, il peut être obligatoire, il peut être déconseillé, il peut être haram, il peut être seulement autorisé, permis. Le cas où le mariage devient obligatoire, c'est le cas où le frère ou la sœur craint de tomber dans le haram, dans le péché. Quand le jeune, qu'il soit garçon ou fille, craint commettre le haram, l'acte illicite, eh bien là, le mariage devient obligatoire. S'il ne craint pas tomber dans le péché, il reste recommandé. La règle de base, c'est qu'il est recommandé. Mais il peut changer de qualification juridique de l'hukm selon certains facteurs. Donc si tu crains tomber dans le haram, quelqu'un qui voit, par exemple, il est entouré par le haram, il va dans des endroits où, comme l'école ou le travail, où il y a beaucoup de haram, etc., eh bien, ou même dans la rue, et il ne sait pas se retenir, il craint le fitna, il craint tomber dans le haram, le mariage devient obligatoire pour lui. Pour répondre à beaucoup de jeunes, ils ont les moyens de se marier, ils ont tout ce qu'ils veulent, et quand tu lui dis, pourquoi tu ne te maries pas, il te dit, oui, mon frère, je ne suis pas encore prêt. Il a 24 ans, je ne suis pas encore prêt. 28 ans, je ne suis pas encore prêt. Mais entre-temps, il commet le haram. Il commet le haram. Il commet le zina, wal'iyadu billah, un des plus graves péchés. Donc là, il est obligatoire du moment qu'on craint tomber dans le haram. Un homme peut-il embrasser sa femme sur la joue si il la rencontre dans la rue, comme pour sa mère, tante, etc. sur sa joue, la règle, puisque c'est ton épouse, c'est halal. Mais il y a embrasser pour salutation, il y a embrasser surtout pour l'épouse, pour autre chose. Donc c'est pour la salutation, il n'y a pas de problème, du moment que ça ne crée pas une fitna dans l'entourage. Parce qu'il y a certaines choses, comme je dis encore une fois, il y a des choses qui sont halal à l'origine. Mais vu le contexte dans lequel tu te trouves, on ne les fait pas. Si dans le contexte, il n'y a aucun problème, ça reste halal. Si dans le contexte, ça peut provoquer des problèmes et des fitnas, on ne le fait pas. Comme j'ai dit aux frères une fois, le fait de tenir la main d'un homme, main dans la main, deux hommes qui se tiennent la main dans la main, halal ou haram? C'est halal. Dans les pays musulmans, dans la plupart des pays musulmans, c'est un signe d'amitié, de fraternité. Et même de mettre la main sur l'épaule de son ami, homme avec homme. Mais dans certains pays, si tu le fais, a'oudou billah, ils vont te traiter de tous les noms. Donc c'est mieux de ne pas le faire si ça va provoquer ce genre de réaction. Je dis c'est mieux de ne pas le faire. Mais ce qui est halal reste halal, sauf si ça va provoquer quelque chose de haram. Concernant les coups de téléphone, si je m'en rappelle bien, il y a une fatwa, une question qui est posée à Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, à ce propos. Est-ce qu'un jeune homme, et c'est une question qui a été posée par quelqu'un de l'Europe, est-ce que je peux téléphoner à ma future épouse, sachant que je ne dis que les choses nécessaires et au minimum, il l'a autorisé au strict minimum, rahimahullah ta'ala. Un frère qui m'a fait sa demande au mariage, mais il n'ose pas venir me demander chez mes parents. Les sentiments se sont installés et j'attends toujours. Ça fait 4 ans que ça dure. Voilà, il est sentiment. Et qu'est-ce qu'il attend, le frère? La venue de l'antéchrist, qu'est-ce qu'il attend? 4 ans? Alors, je dis à la sœur, en deux mots, tu essaies de lui faire parvenir le message par l'intermédiaire de quelqu'un, tu lui dis, soit tu viens demander ma main, d'ici un mois, deux mois, trois mois, c'est à vous de décider, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui vient à ta place, assalamu alaikum wa rahmatullah. On ne joue pas de cette manière, j'accuse pas le frère, mais on ne peut pas attendre, et surtout ça dépend de l'âge aussi de la sœur. 4 ans, c'est quelque chose de beaucoup, subhanallah. 4 ans, elle attend, et peut-être le frère du jour au lendemain, il va dire assalamu alaikum, j'ai changé d'avis. Et tu vas rester à attendre jusqu'à quand? Donc 4 ans, c'est beaucoup. Si vous aviez, il y a 4 ans, vous aviez 14 ans, je comprends. Vous aviez 13 ans, je comprends. Mais si vous aviez 18 ans, 20 ans, 25 ans, après 4 ans, vous devrez attendre combien de temps? Ils n'ont pas de nouvelles. Au moins, s'il vous dit, j'ai attendu 4 ans, maintenant il me reste que 2 mois, alhamdulillah. Déjà, il vous donne un peu de lumière. Mais comme on dit, au moins s'il vous donne un peu de lumière au bout du tunnel, eh bien vous saurez qu'est-ce que vous déciderez. Mais ils n'ont pas de flash, pas de nouvelles, pas de décision, vous n'allez pas rester à attendre jusqu'à la fin des temps. Donc vous lui faites parvenir le message, il prend sa décision. Il veut venir demander la main, il vient. Il veut pas, s'il y a quelqu'un qui vient avant lui, eh bien c'est lui qui est fautif. Zawji, c'est une question en arabe. Zawji yufaddilu akhawatihi wa a'ilatahu anni wa awladi. Mon mari préfère ses sœurs et sa famille à moi. Qabla kulli shay. Donc elle a vécu 10 ans dans cette situation. Et je ne sais plus faire preuve de sabr et que la cause des problèmes ce sont ses sœurs qui viennent pour semer les problèmes entre moi et lui. فماذا أفعل؟ لأنه يقول لي أردت أم لم تريد فأنا هكذا. Que tu veux ou tu veux pas, je suis comme ça. Je suis comme ça, ça marche pas en islam. Cette idée, c'est une idée de Iblis qui te l'a suggéré. Je suis comme ça. Alors imagine que chacun de nous, hein, il garde ses défauts et il dit je suis comme ça. Quelqu'un qui boit, tu lui dis, Akhi, arrête de boire, il te dit, mais je suis comme ça. Quelqu'un qui insulte ses parents, je suis comme ça. Quelqu'un qui parle tout seul dans la rue, je suis comme ça. Si chacun dit, je suis comme ça, il ne veut pas changer, eh bien, il n'y aurait pas d'islam sur terre. Les sahaba, qu'est-ce qu'ils étaient avant l'islam? Ils adoraient des idoles. Ils adoraient les statues. Ils faisaient shirk. Ils commettaient les péchés. Mais le jour où Rasoul nous a appelés à l'islam, ils sont devenus la meilleure génération de l'humanité. Ils ont changé. On voit parmi les sahaba, ceux qui ont rencontré le Rasoul, 2 minutes, ils sont venus rencontrer le Rasoul. Le Rasoul leur a parlé de l'islam, ils ont dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ». Ils ont retiré toutes sortes de jahiliyyah qu'ils avaient avant l'islam. Ils ont changé directement. Dire que je suis comme ça, ce n'est pas une excuse, il doit faire un effort. Chacun de nous a ses défauts. Et nous devons tous faire des efforts pour se débarrasser, nous débarrasser de ses péchés ou bien de ses défauts petit à petit. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله